trois livres sur les régimes totalitaires de l'Est. Sans doute, l'ouverture des archives des dossiers du KGB, de la Stasi et autres polices politiques des pays de l'Est y est pour quelque chose, car on constate que les livres sur le régime communiste se multiplient, plus ou moins intéressants. Parmi ceux-ci, j'en ai choisi trois, différents dans leur façon d'évoquer cette époque. Enfant 44, de Tim Rob Smith. C'est un thriller, un roman policier noir qui se passe sous le régime stalinien. Cela permet de renouveler un cadre, de faire sentir un climat, au propre comme au figuré, de l'utiliser pour mettre en scène un polar très dur, à l'image du régime. Un enfant a été tué, sa famille est certaine qu'il a été assassiné, mais le crime est considéré comme le signe de société dégénérée, donc impossible sous le régime soviétique qui a institué le bonheur du peuple. Donc c'est un accident, un point c'est tout. Sauf qu'à y regarder de plus près, cet enfant n'est pas le premier à mourir de façon bizarre. Le doute s'est insinué dans la tête de Léo. Il est lui-même un peu sur la touche pour ne pas avoir bien suivi la ligne du parti. C'est un bon policier? Il a du savoir-faire, il remonte peu à peu une piste à ses risques et périls. Le rythme est soutenu, et on le lit d'une traite, même si au début les premières scènes sont tellement violentes que j'ai failli y renoncer. Et la fin est totalement surprenante. Pour quelqu'un qui n'a jamais rien lu sur le régime stalinien, c'est une bonne façon de découvrir la mainmise du régime sur les esprits, la difficulté de vivre en restant honnête avec soi-même, avec sa conscience, la vie de millions de gens pris dans les raies de cette police, et de la délation permanente. L'auteur parle par exemple de la famine, 10 millions de morts, qu'organisa Staline dans les années 30, particulièrement en Ukraine, au cours de laquelle les paysans, rendus fous par la faim, ont mangé de la chair humaine, notamment celle des enfants. Le but était d'éliminer ces koulaks récalcitrants au nouveau régime et de former les kolkhoz, les fermes collectives. C'est insoutenable, direz-vous. Peut-être, mais cela a été, il faut le savoir. Donc une bonne approche d'une époque et un bon polar. En second, je voudrais évoquer une autobiographie, celle de Vesco Pranev, un bulgare. Son livre s'intitule « L'homme surveillé ». Vesco est un fils de communiste. Son père était un juriste éminent qui a tout fait pour installer ce régime en Bulgarie dans les années d'après-guerre. Mais Vesco, tout jeune, comprend que les mailles d'un filet les enserrent fermement, que la délation est pratiquée couramment, même au sein des familles, que pour avancer dans la société bulgare, il faut participer à ce système et vendre sa conscience et son libre arbitre. En 1957, il se retrouve à Berlin-Est pour ses études. Il est approché par le KGB, refuse de collaborer et, effrayé, passe à l'Ouest. À cette époque, le mur n'est pas encore construit, c'est encore facile. Mais il est inquiet des conséquences de son geste pour son père et il revient à Sofia après quelques longues semaines de prison. À partir de là, il sera considéré comme potentiellement dangereux et surveillé en permanence par la police politique. C'est le récit de toute sa vie, faite de petites et grandes résistances, d'atermoiements, de ruses pour déjouer les ficelles de ce régime qui utilise amis et proches pour vous piéger. Plus tard, il aura l'occasion à nouveau de passer à l'Ouest, mais il renoncera. Il deviendra malgré tout cinéaste, écrivain, se voyant refuser le voyage à l'étranger pour recevoir un prix, avançant jour après jour, en s'échinant à se préserver des compromissions, et se voyant très mal compris de tous, ce qui est très dur à vivre pour lui. Il a écrit ce livre en consultant l'épais dossier qu'avait constitué la police politique sur lui, découvrant page après page les multiples trahisons des uns et des autres, les excusant souvent malgré tout. Pranev se livre à une analyse très fine des dégâts que ce type de régime a causés sur son propre comportement et sa psychologie. C'est le récit d'une vie pleine d'amertume, ainsi que l'histoire des Bulgares sous le régime totalitaire. Régime sûrement moins dur que celui du grand voisin. Il n'y eut pas de goulag en Bulgarie, mais les camps de travail existaient cependant à l'échelle du pays. Bon d'accord, c'est un bouquin un peu sérieux, mais c'est l'histoire du XXe siècle, encore une fois, de ses outrances, et on ne peut pas lire que de l'eau de rose. À signaler, la préface remarquable de finesse de Svetan Todorov. Bulgare lui aussi, il a choisi la France pour faire ses études, et il y est resté. C'est aujourd'hui un de nos grands penseurs et écrivains, grand ami de l'ethnologue Germaine Tillion, que nous connaissons bien, n'est-ce pas, à Saint-Marcel. Et pour finir, les enfants de Staline, Owen Matthews. Là aussi, c'est une histoire bien réelle, celle de la famille de l'auteur. Son grand-père, Bibikov, était un soviétique pur sucre, s'élevant peu à peu au sein du parti, capable dans les années du début du régime d'entraîner les ouvriers et de les pousser à leurs limites au nom de ce même parti. Mais un jour, il sera rattrapé par les grandes purges staliniennes des années 36-37, encore quelques millions de morts. Il est arrêté, disparaît, et son épouse est envoyée au goulag. Les deux petites filles survivront dans l'apocalypse de la guerre, d'orphelinat en hôpitaux, séparés, puis se retrouvant, par le plus grand des hasards, à la fin de celle-ci. Devenue jeune fille, Ludmilla, la mère de l'auteur, rencontrera Mervyn, un jeune universitaire anglais russophile. À la veille de leur mariage, celui-ci, parce qu'il a refusé de devenir une taupe du KGB, sera réexpédié sans ménagement à Londres. Commenceront alors six longues années, au cours desquelles Mervyn mettra tout en œuvre pour faire sortir sa fiancée du RSS. Il aura les Russes à l'usure, bénéficiant d'un échange avec un couple d'espions. Owen est leur fils. Et jeune adulte, il se retrouvera dans la Russie des années Eltsine à gagner sa vie comme reporter. Il porte en lui ses deux origines, interrogeant l'une et l'autre, cherchant dans les rues de Moscou l'histoire de ses parents. Comme Branev, il consulte les archives du NKVD et retrouve le dossier de son grand-père maternel, fusillé finalement aussitôt après son arrestation. Il déroule alors l'histoire de cette famille, ballottée comme des millions d'autres au gré des événements, évoquant tour à tour le Moscou de ses parents, leur histoire d'amour qui fit la une des journaux de l'époque et la décadence de la société russe des années Eltsine qu'il connaît bien pour en être le chroniqueur pour Newsweek. Owen a mis toute son âme dans ce récit, bien meilleur que beaucoup de romans. Même si on a lu plein d'histoires sur cette époque et ce régime, on est touché par cette famille, par la dureté de la vie de chaque jour pour ces gens. Une anecdote, par exemple. Toute jeune fille, sa grand-mère et une de ses sœurs sont poussées par leurs parents à partir de la maison pour gagner leur vie ailleurs. Sur un quai de gare, la sœur s'écroule, malade, elle est bleue. On pense aussitôt au typhus qui sévit partout à cette époque-là. Et Martha, la grand-mère de Owen, recule elle aussi avec les autres et s'éloigne, abandonnant sa sœur. Avait-elle le choix? Comment vivre après? C'est elle qui ensuite passera de longues années au goulag pour rien. Elle en reviendra, vivante, mais folle. Comment ne pas le devenir quand un système a broyé votre humanité dès le plus jeune âge? Encore une fois, c'est un livre passionnant qui couvre le XXe siècle, mêlant la petite et la grande histoire.